Amen. J'espère que vous allez bien dans ces premiers jours d'été. C'est pas gagné, hein? C'est vraiment pas gagné. En tout cas, qui dit été dit vacances. Et lorsque je pensais à des vacances que nous avons eues avec mon épouse, j'ai pensé à une petite aventure que nous avons eue ensemble. Nous avons, avec ma famille, pris la décision de suivre mon beau-frère qui participait à une compétition de hockey sur gazon. Et nous l'avons suivi pour le supporter, parce qu'en ce moment, vous le savez, nous supportons l'équipe de France et nous sommes allés supporter l'équipe de France de hockey sur gazon aux Pays-Bas. Et nous sommes partis avec ma petite famille. À l'époque, nous n'avions que notre aîné, Colline. Et nous sommes partis rejoindre notre famille là-bas. Mais nous avons une aventure un peu particulière, puisque lorsque nous sommes arrivés sur le parking où se tenait la compétition, nous n'avions pas prévu que le temps se dégrade comme il s'est dégradé. Un petit peu surpris de voir qu'aux Pays-Bas, l'été n'est vraiment pas marqué du tout. Il a fait froid et il a plu. Et lorsque nous sommes sortis de la voiture, nous sommes allés sur le terrain et au bout de quelques instants, nous sommes dit « nous ne sommes pas équipés, la pluie commence à arriver ». Et je me rappelle, avec mon épouse, nous avons couru jusqu'à la voiture qui se tenait sur le parking pour nous équiper de caouets, de parapluies, de tout ce qu'il fallait pour se protéger du froid et de la pluie. Et vous savez, aujourd'hui, vous avez sur les clés des voitures, vous avez la possibilité de n'ouvrir que le coffre. Hein, vous voyez ça. Nous avons pris la clé, nous sommes approchés du coffre, nous avons appuyé sur le bouton qui n'ouvre que le coffre. Nous avons récupéré nos affaires, mais surtout, c'est le détail qui tue, c'est que nous avons posé les clés de la voiture dans la gouttière. Vous savez, il y a des gouttières autour de l'ouverture pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons posé les clés dans la gouttière de la voiture, du bord, du pourtour de l'ouverture. Et nous nous sommes équipés, nous sommes chargés, nous avons pris les parapluies, nous avons mis l'espèce de capote qui recouvre la poussette, et nous avons fermé la voiture. Là, j'en souris. Mais je vous laisse imaginer le moment de panique quand nous nous sommes aperçus que nous avons non pas laissé les clés dans la voiture, encore, mais dans la gouttière. Et c'est juste inaccessible parce qu'on aurait pu casser la voiture éventuellement, mais non, mais là, il fallait carrément ouvrir, tordre le métal pour récupérer les clés. Et là, on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, imaginez, on est aux Pays-Bas, on connaît rien, ils ne parlent pas notre langue. Donc, on était un peu perdus et on s'est dit, comment on va faire? Et à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à regarder les choses, vous savez, ceux qui sont de ma génération connaissent bien MacGyver. Vous vous transformez en MacGyver. Parce que là instinctivement d'ailleurs, hein, vous ne cherchez pas à l'être, hein, mais instinctivement, vous devenez MacGyver, vous trouvez des solutions. Et en y regardant de près, on s'est aperçu que par la fente, parce qu'il restait un petit espace, par la fente, on voyait les clés de la voiture. Et là, vous commencez à réfléchir, il y a la musique derrière, nananana, ceux qui connaissent, j'arrête là. Et là, vous voyez le parapluie, vous dites, avec le parapluie, je vais pouvoir faire quelque chose. Vous prenez le parapluie, vous commencez à le démonter, et puis vous récupérez les baleines du parapluie, et puis ça vous sert de tige assez solide pour aller atteindre la clé qui se trouve dans la gouttière et qui est recouverte par le capot de la voiture. Et là, vous parvenez à la clé et vous arrivez à appuyer sur le bouton de la clé pour ouvrir la voiture. Point final. Et là, vous applaudissez, hein, vraiment, c'est le principe. Là. Voilà. Et là, on a remercié le Seigneur parce que là, dans les circonstances où on était, on s'est dit comment on va faire pour rentrer chez nous. À l'époque, on était sur la Côte d'Azur et il y avait quelque chose comme 1500 kilomètres. Donc, Seigneur, merci. En tout cas, et c'est le message que j'aimerais partager ce matin va concerner des clés. Il est étonnant dans les Écritures de voir que les clés apparaissent très peu en soi dans les Écritures. Si vous cherchez le mot clé ou l'idée de clé dans les Écritures, vous ne trouverez qu'à peu près 8 messages qui en parlent. Et ce matin, lorsque je partageais, je réfléchissais aux clés, que je mettais ces textes devant moi, trois m'ont interpellé, trois m'ont parlé ce matin pour l'Église et pour ce que nous devons recevoir. Trois clés qui ont des similitudes entre elles. Trois passages qui viennent à nous avec des contextes tellement différents, avec des approches tellement différentes. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de ces similitudes? Pourquoi Seigneur? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi Seigneur, tu nous parles de trois clés dans trois contextes différents, mais avec des similitudes tellement marquantes que Il ne peut pas y avoir de hasard. Qu'est-ce que tu as à nous dire au travers d'elle ? Alors ce matin, permettez-moi juste de prendre le temps de décrire les trois contextes dans lesquels nous trouvons ces trois clés. Permettez-moi de partager avec vous un petit peu des Écritures pour mieux comprendre ce que Dieu a à nous dire au travers de ces clés. La première clé, nous le trouvons dans l'Ancien Testament et en particulier dans le livre prophétique d'Ésaïe. Et cette clé, je l'ai appelée la clé d'Éliakim. Peut-être ce matin, vous ne connaissez pas Éliakim, mais j'aimerais prendre le temps de vous partager un petit bout de son histoire. Éliakim, en effet, se trouve dans deux livres, dans le livre d'Ésaïe, nous allons le voir, mais aussi dans le livre des rois. Éliakim a été pendant des années au service du roi Ézéchias. Et il avait une position particulière. Il avait la position d'être premier ministre, chef de la maison du roi. Seulement, l'histoire d'Éliakim commence bien des années avant. Et elle commence par une prophétie d'Ésaïe. Prophétie que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 22, 21. Et le contexte est le suivant. Ésaïe décrit une situation catastrophique au sein de la maison du roi, où le roi a certainement placé un intendant qui n'était pas à la hauteur. Et même la prophétie dit de cet homme qu'il était l'opprobre de la maison de son maître. C'est vous dire si cet homme avait fait des dégâts, c'est vous dire si cet homme était vraiment pas à sa place. Tant et si bien que Dieu décida de mettre quelqu'un à la place de cet homme. Il décida de dire à cet homme, maintenant tu vas t'en aller et je vais mettre à la place que tu occupes un autre homme. Et cet homme, c'est Éliakim. Un homme dont il est dit qu'il était le serviteur de Dieu. Un homme qui est dit de lui qu'il va faire du bien au peuple, à tel point que Ésaïe va dire de lui qu'il sera comme un père pour la maison de Juda et pour la ville de Jérusalem. Et cet homme va servir avec cœur, cet homme va servir avec zèle la maison du roi de Juda, la maison d'Ézéchias. Alors, je vous parle de cet homme, mais je ne vous parle pas de la clé. Et j'y viens justement. Le texte qui nous parle de la clé est dans ce fameux texte où Ésaïe prophétise sur Éliakim. Et dans cette prophétie, Dieu va dire tout un tas de choses à Éliakim, va lui dire qu'il va prendre la position de ce chef, mais il va lui donner une clé. Et c'est ce premier texte. Ésaïe chapitre 22, verset 22, il va s'afficher « Je mettrai sur ton épaule Éliakim la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ça, c'est notre première clé. La deuxième clé, cette fois-ci, nous la trouvons un peu plus loin dans les évangiles. Et c'est vous dire si les contextes de ces clés sont particuliers. On passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et là, nous sommes avec Jésus qui est en train de parler à un apôtre. Et cet apôtre, c'est Pierre. Et là, dans ce contexte-là, peut-être vous pensez déjà à ce texte où Pierre est en grande conversation avec Jésus et Jésus va lui faire part d'une autre prophétie. Pierre est l'un des disciples qui a reçu le plus de prophéties de la part de Dieu, de la part de Jésus. Prophéties qui sont en lien avec son avenir, prophéties qui sont par moments un petit peu dures. L'une des prophéties qui me vient en tête, c'est quand Jésus va dire à Pierre, « Mais quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, bien, on t'attachera, on te liera et on t'amènera là où tu ne veux pas. Mais il y en a une autre qui m'a interpellé, et c'est celle que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit ceci, « Et moi je te dis que tu es Pierre, vous la connaissez, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Jésus poursuit et dit simplement, Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Peut-être déjà, comme moi, vous commencez à voir ces similitudes. D'ailleurs, en posant les deux textes l'un sur l'autre, nous réalisons combien il y a des similitudes entre ces deux textes. « Je mettrai sur ton épaule ». Et dans Matthieu, nous voyons « Je te donnerai ». C'est Jésus, c'est Dieu qui parle et qui investit et qui met sur la personne ou qui donne à la personne. Nous voyons Éliakim, nous voyons Pierre. Et dans un contexte, il est fait question et référence à la maison de David. Et par extension, c'est la maison d'Ézéchiel dans le contexte d'Éliakim. Et par extension encore, nous y voyons la maison de notre Seigneur Jésus, parce que Jésus descend directement de la maison de David, directement de la maison d'Ézéchiel, et qu'il est lui-même, Ézéchias, pardon, qu'il est lui-même appelé à la succession et à régner. Maintenant, ce que nous trouvons dans Matthieu chapitre 19 et 16 verset 19, nous voyons la suite. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous retrouvons des similitudes frappantes avec ce que dit Ésaïe. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors passons au dernier texte, puisque je vous ai parlé de trois textes. La troisième clé, nous la trouvons cette fois-ci dans le livre d'Apocalypse. Et ce texte fait référence à un autre contexte encore, à une église. Une église particulière que nous connaissons bien, Philadelphie. Et ce qu'il y a de marquant dans cette église, c'est qu'elle fait partie en effet des sept églises de l'Apocalypse, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est attachée au cœur de Jésus. C'est une bonne église. Et Jésus lui trouve peu de défauts, quasiment pas. Par contre, il va lui dire, tu es une église qui est restée fidèle, attachée à la parole. Mais regardez ce qu'il lui dit, mais il te manque de la puissance. Et Jésus va souligner ça lorsqu'il va lui parler. Et associé à cela, il va lui faire une belle prophétie. Il va lui dire, mais voilà, je mets devant une porte, devant toi, une porte, et le mot est fort, c'est une porte ouverte. J'ai oublié de le mettre. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et dans ce contexte-là, Jésus va rajouter une chose, où il va commencer par une chose très importante. Et c'est ce que nous trouvons, c'est la troisième et dernière clé. Apocalypse chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, et notez la suite. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Maintenant, mettons les trois textes les uns sur les autres, et vous constaterez avec moi toutes les similitudes qu'il peut y avoir entre ces trois textes. En effet, nous retrouvons le Saint, nous retrouvons Dieu qui donne, nous retrouvons les clés, et les clés, la clé, nous retrouvons le contexte. Si dans le premier contexte d'Ésaïe, il est fait question de la maison, la clé de la maison de David, pour l'Église que nous retrouvons dans l'Apocalypse, Philadelphie, il est fait question de la clé de David. Voyez comme moi toutes les similitudes, et ces similitudes me parlent et me frappent, et m'amènent à poser cette question, mais Seigneur, pourquoi mets-tu autant de similitudes dans ces textes? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux partager avec ton Église ce matin? Qu'est-ce que tu veux dire au peuple de Dieu au travers de ces similitudes? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Et quand Dieu met autant de similitudes dans des textes, quand Dieu veut parler à son peuple, il insiste de cette façon. Il met plusieurs éléments qui se recoupent afin de nous communiquer un message et nous amener à réfléchir sur ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? La réponse, nous allons la trouver en revenant au texte qui est à l'origine de cette structure, à l'origine de ces textes. Et finalement, le texte d'origine, c'est le texte d'Ésaïe que nous avons déjà lu, Ésaïe 22, verset 22. Et nous avons déjà commencé à parler de ce texte en parlant d'Éliakim. Et c'est en regardant à l'expérience d'Éliakim que nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de cette clé que j'ai fini par appeler la clé de David. Parce que finalement, c'est ce nom de clé que nous retrouvons dans Ésaïe, mais c'est ce nom de clé que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Et peut-être si vous avez déjà lu ce texte d'Apocalypse, lorsque Dieu parle à l'église de Philadelphie, vous avez été surpris du terme employé. Voici celui qui tient la clé de David. Et lorsque j'ai lu ce texte, peut-être comme vous, je me suis dit, mais c'est quoi cette clé? Ce matin, partageons ensemble ce que Dieu veut nous dire au travers de la clé de David. En regardant au texte d'origine, en regardant à ce que Dieu va dire à Éliakim, son serviteur. Vous vous rappelez, Éliakim, j'en ai parlé à l'instant, a été appelé à une fonction particulière, celle d'être le chef de la maison du roi. C'est un texte étonnant où nous voyons plein de choses. Nous voyons comment Dieu va enlever un serviteur pour le remplacer par Éliakim. Et Éliakim va prendre ses positions, va prendre son rôle, va prendre son administration, entre guillemets, parce que être chef de la maison du roi, c'était en quelque sorte être le premier ministre, à l'image de ce que Joseph a été sous le règne de Pharaon. Et beaucoup de responsabilités passaient par lui. Et lorsqu'on lit les textes, et nous aurons l'occasion de lire un peu plus loin, dans 2 Rois chapitre 18, nous verrons Éliakim être sur le terrain de la négociation. Le roi ne va pas se déplacer, c'est Éliakim qui va devenir le porte-parole du roi. Et nous voyons toute la responsabilité qui est attachée au rôle qu'Éliakim va recevoir de la part de Dieu. Maintenant, la prise de position d'Éliakim se manifestait de différentes façons. Et lorsqu'on lit le texte et la prophétie, nous voyons que Dieu va d'une part changer ses habits et il va lui donner une clé. Nous retrouvons ces mêmes indications lorsque Joseph va prendre ses responsabilités sous le règne de Pharaon, lorsque Pharaon va décider que Joseph devienne, entre guillemets, le premier ministre d'Égypte. Nous voyons que Pharaon va premièrement lui changer d'habit, il va le revêtir de fin lin. La deuxième chose, c'est qu'il va lui, en premier lieu, il va lui donner sa bague. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il va lui mettre un collier en or. Tout ça dans un but précis, identifié. Et si nous devons retenir une première chose de cette clé de David, c'est qu'elle avait un rôle. C'était un signe distinctif. Et c'est la première chose pour nous, enfants de Dieu, que Dieu veut nous communiquer ce matin au travers de la clé de David. C'était un signe distinctif. Lorsqu'on lit le texte d'Ésaïe, nous avons le sentiment que cette clé pourrait être considérée comme quelque chose de spirituel. Mais en réalité, lorsqu'on lit les textes ou lorsqu'on fait un petit peu de recherche, on se rend compte que la clé de David était un signe distinctif réel, matérialisé. Et lorsque Dieu parle à son serviteur Éliakim, il lui dit « Mais je poserai sur ton épaule la clé de David. » Il y a une volonté de Dieu d'identifier Éliakim comme celui qui deviendra le chef de la maison d'Ézéchias. Lorsque Ézéchias va recevoir cette clé, elle va être clairement identifiée sur son épaule. Tant c'est si bien que Éliakim, lorsqu'il va se balader dans le palais royal, chaque serviteur va être capable d'identifier Éliakim comme le chef de la maison. Et finalement, c'est ce que Dieu cherche à nous faire comprendre ce matin, déjà au travers de la clé de David. Il cherche à nous identifier. Il cherche à faire de nous ses administrateurs. Et lorsqu'Éliakim va se balader dans le palais royal, il va être vite fait identifié par les serviteurs. Il y a des années de ça, lorsque j'avais quelque chose comme 18-19 ans, nous avons organisé la venue de David Wilkerson en France. David Wilkerson n'était pas venu en France depuis des années. Et c'est vraiment étrange de se retrouver des années plus tard à Paris en train d'organiser la venue du frère Carter Conlon. Lorsque nous avons organisé à l'époque la venue de David Wilkerson, j'avais quelque chose comme 18 ans, et par force des choses, je me suis retrouvé dans l'équipe organisatrice, et il a fallu établir les badges. Et je me suis retrouvé à 18 ans dans l'organisation de cet événement avec un badge marqué « organisateur ». Et là, vous savez, il y avait quand même de l'orgueil. Hein. Je me suis retrouvé avec un beau badge. Et quand on est organisateur, c'est un passe-partout. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Et je m'amusais à traîner auprès des services de sécurité et à leur montrer mon badge. Laissez-moi passer. Avec beaucoup de fierté. Et finalement, vous savez, spirituellement, je crois que Dieu veut nous identifier de la même façon. Dieu veut nous rappeler qui nous sommes en Jésus. Et finalement, cette clé de David, on va la retrouver dans la vie de Pierre. Rappelez-vous le texte qu'il est dit sur Pierre. Il est dit que, voilà Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ces clés-là, elles se sont manifestées le jour de la Pentecôte. Une de ces clés s'est manifestée le jour de la Pentecôte. En particulier quand Pierre va prêcher la bonne nouvelle. Souvent on a l'image de Pierre et ça a été un peu... C'est une approche un peu facile de représenter Pierre auprès de la porte des cieux avec un trousseau de clés pour savoir s'il va faire passer les gens. Mais la vraie signification de cette prophétie se trouve le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre va exercer son ministère, et le jour de la Pentecôte, Pierre va utiliser cette clé qui est la prédication, mais inspirée par le Saint-Esprit. Et cet homme qui, inspiré par l'Esprit, va prêcher pour la première fois de sa vie, va amener 3000 personnes au salut. Mais à la base, Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre se retrouve avec les 120 dans la chambre haute, des langues de feu vont tomber sur eux. Et ils vont se mettre à exprimer des langues qu'ils ne connaissent pas et ils vont se mettre à parler en langue. Et j'aimerais, et permettez-moi cela, d'identifier dans cette langue de feu ou dans le fait d'exprimer ce parler en langue, une volonté de Dieu de nous identifier. Et si la clé dont Eliakim a été revêtu était ce baptême du Saint-Esprit. Et si pour nous qui sommes dans l'Église, des années plus tard, Dieu nous revêtait de cette clé de David au travers du baptême du Saint-Esprit. Clé qui va nous identifier, clé qui va nous amener à prendre position. Et je trouve ça vraiment merveilleux parce que Pierre ne va pas en rester là dans son ministère, puisque quelques temps après, il va aller en Samarie et il va utiliser une autre clé. Puis des années plus tard, il va se retrouver à discuter avec Corneille sur son salut et Pierre va utiliser encore une fois cette clé. Dieu cherche à nous rappeler qui nous sommes en lui. Et au travers de cette clé de David qui pour moi représente le baptême du Saint-Esprit dans nos vies, Dieu cherche à nous rappeler qui nous sommes en Jésus. Il y a ce texte magnifique, Romains chapitre 8, verset 16, qui dit une vérité. Son esprit dit à notre esprit, à ma Père. Entre guillemets, ça reflète notre adoption en Jésus. Et vous savez, ceux qui avaient le rôle de premier ministre, bien souvent, c'était les enfants du roi. On trouve des textes dans les Écritures où les enfants du roi étaient souvent ceux qui étaient appelés à cette fonction particulière, celle d'être premier ministre. Vous savez, quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, bien souvent, nous passons à côté des raisons qui nous poussent à parler en langue. Mais je crois qu'une des raisons particulières qui nous pousse à parler en langue, c'est de nous édifier nous-mêmes. Et quand nous nous édifions nous-mêmes, l'Esprit nous rappelle à nous-mêmes qui nous sommes en Jésus. Et finalement, lorsque nous parlons en langue, l'Esprit nous rappelle que nous sommes les enfants du roi, nous sommes appelés à un ministère particulier, que nous sommes appelés à administrer son royaume. Et comme Eliakim a reçu cette autorité de la part de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit sur nous, une puissance qui nous rappelle qui nous sommes en Jésus. Et vous savez, ça a du sens. Peut-être ça n'a pas de sens pour nous forcément là, ou pour quelques-uns, mais pour l'Église de Philadelphie, à qui il est dit « Tu es faible ». Dieu est en train de dire à cette Église « Hé, tu n'es pas si faible que ça ». Tu n'es pas si faible que ça. Parce que je t'ai remis la clé de David. Parce que je t'ai remis cette autorité. Parce que je t'ai revêtu d'elle. Parce que cette clé de David te rappelle qui tu es en Jésus. Te rappelle qui est derrière toi. Te rappelle que tu es fort en Christ. Tu es fort en Dieu. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et s'il y a une certitude, c'est cette église de Philadelphie. T'es revêtu de puissance et d'autorité. Mais quelque part, j'ai le sentiment qu'elle ne savait pas vraiment. Et ce matin, je suis convaincu de ça, Dieu veut rappeler à son église qu'il lui a donné la clé de David, qu'il l'a revêtue de puissance, qu'il l'a baptisée du Saint-Esprit pour savoir qui elle est en Jésus. Vous êtes là? Ouais. Église, tu as peut-être le sentiment d'être faible ce matin, mais Dieu veut te rappeler qui tu es en Dieu. Dieu veut te rappeler de quoi il t'a revêtu. Et ce n'est pas une église faible qu'il y a devant moi, mais c'est une église forte parce que Dieu l'a revêtue de puissance. Parce que Dieu lui a donné la clé de David. Et que cette clé, c'est une clé de puissance. C'est une clé qui doit se révéler en nous, qui doit se manifester dans nos cœurs. Alors église, parle en langue, édifie-toi toi-même. Pour comprendre qui tu es en Christ, laisse l'Esprit de Dieu te révéler qui tu es. Laisse l'Esprit de Dieu te révéler qui tu es en Jésus. Sois fier de qui tu es en Jésus. Amen. Sois fier de qui tu es en Jésus. arbore la clé de David. Comme ce serviteur, cet homme, va pouvoir l'arborer lorsqu'il se baladait dans le palais du roi. Éliakim portait cette clé sur son côté qui signifiait qui il était dans ce palais. Tu n'es pas n'importe qui dans le palais du roi. Tu n'es pas n'importe qui dans le palais du roi. La deuxième signification que nous pouvons trouver dans cette clé, c'est que cette clé, elle est aussi un pouvoir, une autorité, une puissance pour administrer la maison du maître. Lorsqu'on lit le texte, et vous l'avez lu comme moi, Ésaïe chapitre 22, verset 22, il est dit ceci, « Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Et je me suis permis de souligner en rouge le simple fait d'ouvrir ou de fermer. Ce que Dieu veut dire à son Église, et j'en suis convaincu ce matin, c'est qu'il lui a donné l'autorité. Éliakim, lorsqu'il est arrivé en position, lorsqu'il est devenu chef de la maison du roi, l'une de ses qualités qui sont associées à son rôle, c'est de pouvoir ouvrir toutes les pièces du palais. Lorsqu'on lit les textes et les différents commentaires, ils nous font penser que le chef de la maison du roi avait cette possibilité, avait cette qualité de pouvoir vérifier tout ce qui se passait dans la maison de son maître. Aussi, il pouvait ouvrir les réserves, vérifier ce qui s'y trouvait, distribuer en fonction des besoins, laisser une porte ouverte. En fait, il avait tout pouvoir dans la maison de son maître. Il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait visiter, regarder, aller partout où il allait, avec la clé posée sur son épaule pour signifier son autorité et sa position. Et il y a quelque chose de fort pour l'Église, mes frères et sœurs. Parce que l'Église, sous la puissance du Saint-Esprit, est appelée à ouvrir ou à fermer des portes. Hein? Pierre, où tu nous amènes ce matin? Revenons à l'histoire d'Éliakim. Éliakim qui, dans ce contexte-là, et nous retrouvons Éliakim dans 2 Rois, chapitre 18, est maintenant affilié à la maison de son maître, à la maison d'Ézéchias, et alors qu'il est sous la responsabilité d'Ézéchias, un ennemi va poindre. Et cet ennemi, c'est l'Assyrie. Sanchérib, le roi d'Assyrie, vient menacer le royaume de Juda. Et là, dans ce contexte-là, nous avons le roi Ézéchias qui est perdu, qui se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Parce qu'Ézéchias a l'exemple de ce qui se passait chez son voisin Israël. La Syrie a massacré, a fait disparaître Israël de la carte, a déporté la plupart des habitants. Et Ézéchias voit ça et se dit mais qu'est-ce qui va nous arriver? C'est ce qui va se passer aussi pour nous. Et là, Ézéchias, pris de panique, dit à son serviteur, Éliakim, va voir le prophète Ésaïe. Demande-lui ce qu'on doit faire. Demande-lui ce qui va se passer. Et Éliakim, pendant plusieurs passages, va faire l'aller-retour entre la maison d'Ésaïe et la maison du roi pour exprimer ce que le Seigneur a dit au travers de la bouche d'Ésaïe. Et on se retrouve dans un passage particulier où Éliakim va se retrouver en présence du prophète Ésaïe. Et là, Ésaïe va dire une chose. Et vous voulez prendre le texte avec moi dans 2 Rois, chapitre 19, verset 6 ou verset 5, pour bien comprendre le contexte. Voilà ce qui nous est dit. Les serviteurs du roi, entre guillemets, Éliakim en tête. Et si vous lisez tout le livre, vous comprendrez que c'est bien Éliakim dont il s'agit. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Verset 6. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Entre autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ésaïe est en train de dire à Éliakim, sois mon porte-parole. Ésaïe est une image du Saint-Esprit. Et du coup, Éliakim devient le porte-parole du Saint-Esprit pour parler au roi. Qu'est-ce qu'Éliakim va dire au roi? Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues par lesquelles on m'a outragé. M'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle, qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Éliakim devient le messager prophétique. Éliakim délivre le message à son maître, au roi Ézéchias. Mais les choses n'en restent pas là. Au verset 32, Ésaïe va poursuivre et va continuer le message prophétique et Éliakim va continuer à communiquer le texte. Verset 32, et notez bien tout ce qui est dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Écoutez bien ce qu'il y dit. Il n'entrera point dans cette ville. Il ne lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il ne s'élèvera point de retranchement contre elle. Verset 33, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et écoutez bien encore une fois, il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Des années auparavant, Ésaïe va dire à Éliakim, quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Lorsqu'Éliakim va délivrer le message à son maître, à Ézéchias, il va lui dire, le roi d'Assyrie ne rentrera pas. Parce que, au nom de Jésus, il aurait pu le dire, la porte est fermée. Parce qu'au nom de Jésus, la porte est fermée. Et vous savez, l'Église va être, et j'en suis convaincu, est appelée à se lever. L'Église est appelée à prononcer des paroles qui vont fermer les portes à l'adversaire. Éliakim va se lever et va dire au roi que cette porte sera fermée, que le roi d'Assyrie ne rentrera pas, Sanguérib ne rentrera pas dans la ville de Jérusalem. Ses armes ne rentreront pas, elles resteront à l'extérieur parce que j'ai prononcé une parole sur les portes de Jérusalem. Elles seront fermées. Et la prophétie va s'accomplir puisque dès quelques temps après, ce roi va devoir rentrer chez lui. Il va se retrouver en difficulté et il va mourir. La parole va s'accomplir. L'Église est appelée à fermer les portes, mais elle est appelée aussi à en ouvrir. Et là, c'est la prophétie qui est en lien avec Pierre. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que nous avons partagé que Pierre a reçu une prophétie avec plusieurs clés. Et lorsqu'on lit les Écritures, nous l'avons dit tout à l'heure, cette prophétie va s'accomplir en partie à la Pentecôte. Mais Pierre va utiliser une des clés à la Pentecôte. Oui, en effet, il va prêcher et 3000 âmes vont se convertir, mais le ministère de Pierre ne va pas s'arrêter là puisqu'il va aller en Samarie. Et là encore, sur le travail de Philippe, Pierre va établir l'église en Samarie. Mais plus encore, lorsque quelques temps après, il va se retrouver en face de Corneille, et vous connaissez ce passage, Pierre va encore utiliser une clé, et avec l'audace, avec la force qui était la sienne, il va encore ouvrir une porte, celle des gentils que nous sommes. Rappelez-vous, l'Église est appelée à ouvrir, et elle est appelée à fermer des portes. Elle est revêtue d'une puissance qui l'amène à prononcer des paroles inspirées par l'Esprit. Et pour cette église, et on va revenir à cette église particulière de Philadelphie, cette église était dans un combat, dans une lutte, et Dieu va lui dire, voilà, je t'ai remis une clé particulière qui va te permettre d'ouvrir une porte. Et voilà, si je mets devant toi une porte ouverte. Aussi faible qu'elle pouvait être, aussi affaiblie qu'elle pouvait être, aussi faible qu'elle pouvait paraître. Dieu est en train de dire à cette église, voici, je mets devant toi une porte ouverte parce que je t'ai remis la clé, je t'ai donné la puissance de l'ouvrir. L'histoire nous dit que l'église de Philadelphie était à un carrefour particulier. Et lorsqu'on regarde la carte, on va voir la carte. On voit que l'église de Philadelphie, la ville de Philadelphie, était aux portes d'un territoire gigantesque. Ce territoire, je l'ai souligné en rouge, ou je l'ai entouré en rouge, qui s'appelle la Phrygie. Et l'église de Philadelphie était au carrefour de bien des territoires, mais elle était à l'entrée de la Phrygie. Et l'un des objectifs de ceux qui ont bâti la ville de Philadelphie, dans un premier lieu, c'était d'amener la culture grecque au plus profond des terres turques à l'époque. Et lorsqu'ils ont bâti cette ville, il y avait vraiment une volonté de mission. Mais pas une mission d'annoncer l'évangile, hein, mais de propager la culture grecque. C'était ça l'idée de lorsqu'ils ont bâti l'église de Philadelphie. Ils l'ont bâti à l'entrée de ce territoire immense afin de propager la culture grecque à l'intérieur des terres. Seulement, le projet de Dieu pour Philadelphie n'était pas de propager la culture grecque. Le projet de Dieu, c'était de propager l'évangile dans ce territoire. Aussi, quand Dieu parle à cette église, il lui parle de cette porte ouverte, que Dieu a ouverte et que personne ne peut fermer. Et Dieu lui dit à cette église toute faible, mais toi, ô église petite, toi, église qui te regarde comme faible, toi, église qui te regarde sans capacité, je vais te donner un champ, je vais te donner des perspectives, je vais te donner un terrain d'évangélisation gigantesque. Toi qui te considères sans force, tu vas devenir une puissance, une colonne qui va propager l'évangile dans ce territoire. Il y a un encouragement pour nous, mes frères et sœurs, quand je regarde ça, et quand je regarde la clé de David que Dieu a déposée sur nos vies, quand je regarde la puissance du Saint-Esprit, il est dit, et vous recevrez une puissance, et vous serez mes. Oui. Oui. C'est ce que Dieu veut faire. Et lorsqu'il parle à cette église, aussi faible que tu es, je t'ai remis la clé de David pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir être une source de bénédiction. Et aussi petite que tu seras, tu auras du retentissement dans l'histoire, à tel point qu'encore aujourd'hui, on entend parler de ces chrétiens. Waouh ! La clé de David doit nous amener à comprendre qui nous sommes, doit nous rappeler qui nous sommes en Jésus, mais nous rappelle aussi la puissance dont Dieu nous a revêtus. Et cette puissance, elle va amener à nous amener à ouvrir des portes. Dieu nous a donné cette clé afin d'ouvrir des mondes spirituels, des portes spirituelles. J'ai trop le souvenir de l'église quand Pierre est en prison et que Pierre est en prison là, il est attaché, il a des gardes partout. Et dans cette situation, l'église priait. Je suis convaincu qu'ils cherchaient la face de Dieu, ils intercédaient, ils élevaient la voix, ils parlaient en langue, ils étaient dans la présence de Dieu. Et alors l'ange vient délivrer Pierre. Et les portes des prisons vont s'ouvrir. L'Église est appelée à ouvrir des portes, mes frères et sœurs. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Église est appelée à ouvrir des portes, comme elle est appelée aussi à enfermer. Vous savez, l'Église a une puissance réelle. Et au travers de sa prière et sous l'inspiration de l'Esprit, elle est capable de faire taire, elle est capable de bloquer, elle est capable d'arrêter. Et c'est peut-être prophétique ce matin ce que je veux dire à l'Église de la part de Dieu, mais j'ai la conviction que dans les années à venir, peut-être les jours à venir, Dieu va nous appeler à ouvrir des portes spirituellement, mais Dieu va aussi nous appeler à enfermer. Dieu va nous appeler à prendre position et à dire « Seigneur, ouvre la porte de ce cœur, ouvre la porte de ces autorités ». Ouvre la porte de ces âmes, ouvre la porte de ces personnes, afin que l'évangile puisse être propagé. Mais en même temps, Dieu va nous demander aussi de prendre position et de dire non. Shankérib, reste chez toi. Ratchaké, rentre chez toi. Tu ne rentreras pas dans l'église. Tu ne dévasteras pas le peuple de Dieu. L'église a reçu la clé de David comme une puissance afin d'ouvrir et afin de fermer des portes. Dernière raison d'existence de cette clé. La clé de David est une puissance qui ne peut être arrêtée. Amen. Il est étonnant de voir l'opposition que les disciples ont reçue. Lorsque Pierre a commencé à propager le message d'évangile. Quasiment quelques jours après la Pentecôte, on voit les disciples qui déjà subissent la persécution. Alors que Pierre et Jean montent au temple, vous connaissez cette histoire, il y a ce boiteux à la porte, Pierre et Jean vont guérir cet homme, et puis il va y avoir tout un tas de répercussions qui vont amener Pierre et Jean à finir en prison, battus. Et on se dit, ouais, Seigneur, tu ouvres une porte, mais on a le sentiment que la porte est en train de se refermer. Tellement l'opposition est là, tellement les combats sont rudes, tellement l'ennemi rugit autour de nous. Mais c'est ce qu'il veut nous faire croire, mes frères et sœurs. Mais seulement nous voyons que par la suite, lorsque Pierre et Jean vont sortir de prison, ils vont se retrouver avec les disciples, ils vont prier, chercher la face de Dieu. Et alors qu'ils sont en train de prier, le Saint-Esprit va de nouveau descendre sur eux. Et les murs vont trembler une nouvelle fois. Et alors qu'ils sont dans la présence de Dieu, Dieu va renouveler leur force. Dieu va renouveler leur foi, leur audace. Moi, je trouve ça glorieux de me dire que Dieu, quand il ouvre une porte, il ne la ferme pas. Et lorsqu'il a donné cette clé à Pierre pour propager l'évangile, rien ne va pouvoir l'arrêter. Aussitôt battu, aussitôt dans la rue, encore une fois en train de propager la bonne nouvelle, rien n'a arrêté Pierre. Lorsque Pierre va se retrouver avec Corneille, vous savez, ce n'était pas simple pour Pierre. Dieu lui montre une révélation particulière et lui dit « Mais tout ce que tu considères impur, considère-le pur. » Et lorsque Pierre se retrouve chez Corneille et qu'il trouve un cœur disposé, à un moment il dit « Bon ben Seigneur, si tu penses que c'est qu'ils sont purs, alors allons-y, prêchons l'évangile. » Mais je peux vous dire une chose, Pierre craignait. Et il ne craignait pas l'opposition extérieure, il craignait l'Église en elle-même. Parce que l'Église, à ce moment-là précis, avant que Pierre ouvre et utilise cette seconde clé, troisième clé, pardon, l'Église n'était pas encore prête à accueillir au sein de son peuple les gentils. Parce que l'Église, à ce moment-là précis, elle n'était faite que de juifs. Elle n'était constituée que d'hommes et de femmes qui appartenaient au peuple d'Israël. Et quand Pierre y va, je me suis mis un instant à la place de Pierre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les frères quand je vais leur raconter que je suis allé prêcher l'évangile à des gentils? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et je peux vous dire que je suis persuadé que Pierre, il a dû se dire, Seigneur, où tu m'embarques? Dans quelle galère t'es en train de me mettre? Parce que là, t'es en train de me demander de prêcher à ces hommes, mais qu'est-ce qu'ils vont dire à Jérusalem quand je vais rentrer? Mais vous savez quoi? Dieu avait prévu le plan. Lorsqu'il a donné la clé à Pierre, il lui a dit aussi, et notez bien, quand tu ouvriras, personne ne pourra la fermer. Tant et si bien que lorsque Pierre est en train de prêcher la parole, lorsque Pierre est en train d'annoncer l'évangile, le Saint-Esprit lui-même descend et baptise de feu Corneille et tous ceux qui étaient présents dans l'assistance. Comme pour dire, personne ne m'arrêtera. Tant et si bien que Pierre, lorsqu'il arrive à Jérusalem, et ben il dit au peuple et il dit à l'église, mais comment faire? Comment peut-on empêcher le baptême d'eau à des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit? Et c'est réglé. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand Dieu donne une clé à Pierre, il lui donne aussi le moyen, la possibilité de voir cette porte rester ouverte, quand bien même l'ennemi pourrait s'en servir, quand bien même l'ennemi pourrait tenter d'essayer de la fermer. Il y a une chose qui est remarquable dans cette église de Philadelphie. Lorsqu'on regarde le contexte de cette église, il nous est dit qu'il y avait quand même une certaine opposition. Dieu leur parle d'une porte ouverte, mais Dieu leur parle aussi de la synagogue de Satan. Et là, on se dit, mais dans quelle galère se trouve cette église de Philadelphie? Non seulement ils sont faibles, mais en plus, au milieu de la ville, la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, ils ne le sont pas, ils mentent, c'est ce que nous dit la prophétie. Et là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ils sont tout faibles, ils ont de l'opposition. Dieu avait besoin de leur dire que cette porte, quoi qu'il se passe, allait rester ouverte et que personne n'allait la fermer. Seulement, regardons un peu plus près le contexte. Et c'est intéressant par rapport à cette église de Philadelphie. L'église de Philadelphie avait comme beaucoup d'églises ou de villes dans ce coin des temples. Et lorsque nous faisons un récapitulatif des temples, dans cette ville, nous trouvons des temples adressés aux dieux romains et grecs. Et en particulier un dieu romain qui s'appelle Janus. Et j'étais interpellé par ce dieu romain, parce que lorsqu'on regarde à qui était Janus, Janus était le dieu, parce que les Romains et les Grecs attribuaient une fonction particulière à chaque dieu. Janus était un dieu de la première classe. Il y avait plusieurs types de dieux, mais ce dieu-là, c'était celui qu'il fallait implorer en premier, tant et si bien qu'il en était devenu le dieu de la ville. Philadelphie avait pour dieu principal Janus. Et Janus était un dieu particulier puisqu'il était associé au commerce et aux portes et aux clés. On peut mettre. Voici Janus, on ne va pas le laisser longtemps. Et remarquez ce qu'il tient dans sa main, Janus. Une clé. Une clé. Et permettez-moi de faire le rapport entre ce que Dieu dit à cette église. Il lui dit, voici le saint, le véritable. Il dit à cette église, celui qui tient la clé de David. Dieu est en train d'envoyer un message fort à cette petite église de Philadelphie, toute faible. Il est en train de lui dire, n'écoute pas les mensonges. Ce n'est pas Janus qui tient la clé de cette ville. Ce n'est pas Janus qui tient la clé du projet que j'ai pour toi. C'est l'éternel Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus qui tient cette clé. Et quand il prêche et quand la parole est propagée et annoncée, je me suis dit à un moment donné, quand l'Esprit de Dieu, quand Jésus parle à cette église et lui dit « Voici la synagogue de Satan ». cette synagogue qui se prétend juive et qui ne l'est pas, et il dit une chose qui ment. Peut-être l'église de Philadelphie était en opposition, en combat, parce que dans leur cœur, ils sentaient que Dieu était en train de rouvrir une porte, mais en face d'eux, il y avait un temple qui disait « Mais c'est Janus qui a la clé !» Et Dieu était en train de dire à cette église « Ils mentent. C'est vous qui avez la clé. Et personne ne pourra fermer la porte qui est ouverte, parce que vous êtes ceux et celles qui détiennent la clé. » Dieu veut nous rappeler ce matin qui nous sommes en Jésus. Simplement, même en parlant en langue dans tes temps personnels, laisse l'Esprit dire à ton esprit qui tu es en Jésus. Laisse l'Esprit te conduire dans ton identité propre en Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à être n'importe qui. Dieu t'a appelé à administrer son royaume. Dieu t'a appelé à être un Éliakim. Dieu t'a appelé à être un homme, une femme, chef de la maison du roi, chef de la maison du roi David, chef de la maison de Dieu, car Dieu t'a revêtu de la clé. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Dieu t'a donné une puissance. Et cette puissance n'est pas simplement là pour la véhiculer, la porter pour soi-même, mais Dieu nous dit que cette puissance va t'amener à ouvrir ou à fermer des portes, parce que c'est le but que Dieu a donné aussi au travers de la personne du Saint-Esprit. S'il t'a revêtu de l'Esprit, c'est pour prononcer des paroles de fermeture ou d'ouverture. C'est remarquable ça, hein ? Dieu va t'amener à ouvrir des portes spirituellement et à en fermer. Parce que sous l'onction et sous l'inspiration divine, Dieu va te montrer ce que Dieu veut fermer et ce que Dieu veut ouvrir. Comme Éliakim, à un moment donné, tu vas prononcer des fermetures, tu vas fermer les portes de Jérusalem pour que l'ennemi ne rentre pas, et tu vas permettre à l'Esprit de Dieu de se servir de toi en ouvrant des portes insoupçonnées, des portes que même toi-même tu n'imaginais pas, parce que sous l'Esprit de Dieu, Dieu va te montrer son plan parfait, et sous la prière et sous la puissance de la prière, Dieu va ouvrir des portes que personne ne pourra refermer, parce que la clé que Dieu t'a donnée, c'est une puissance qui ne peut être arrêtée. Tu es invincible. Et face aux adversaires, face à tout ce que l'ennemi pourrait te faire croire, face aux Janus qui se dresseront devant toi, qui arboreront une clé, tu diras « Je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dieu m'a revêtu de cette clé de David. Et je revendique ce qui m'appartient. Je revendique cette porte ouverte pour ma vie, pour ma famille, pour mon pays, pour mon église. » Et personne ne pourra m'arrêter, car cette porte ouverte, elle m'appartient. Dieu m'en a donné la clé. Que l'Esprit nous saisisse, mes frères et sœurs. Rentrons dans sa présence. Fermons, baissons nos têtes quelques instants. Laissons l'Esprit nous conduire là où il veut nous amener ce matin. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour cette clé que tu nous as donnée, pour cette clé que tu as donnée à l'Église. Pour cette clé qui nous rappelle qui nous sommes en Jésus, pour cette clé qui va nous amener à prononcer des paroles de fermeture, d'ouverture, pour cette parole qui va nous amener aussi à réaliser que ce que nous ouvrons dans le nom de Jésus, personne ne pourra le fermer. Nous voulons croire, Seigneur, que tu veux nous revêtir une nouvelle fois de puissance. Peut-être nous sommes à l'image de l'église de Philadelphie ce matin, qui se trouvait faible, qui se voyait faible. Mon Dieu, inspire-nous. Seigneur, rappelle-nous qui nous sommes en Jésus. Rappelle-nous ce que tu as fait de nous. Rappelle-nous qui nous sommes. Nous sommes les intendants du royaume. Aussi, nous avons l'autorité de fermer et d'ouvrir les portes. Aussi, tu nous as donné la possibilité d'ouvrir les portes spirituelles. Et nous voulons voir ces portes s'ouvrir. Nous voulons voir le royaume de Dieu s'agrandir. Nous voulons voir l'église de Bastille aller plus loin, parce que les portes vont se multiplier, parce qu'au milieu de nous, il va se lever toute une génération d'Éliakim, arborant la clé de David et réclamant les portes qui nous appartiennent. Portes qui ne peuvent être fermées, portes qui se trouveront ouvertes lorsque l'ennemi tentera de les fermer. Nous voulons croire que ce matin, Dieu veut nous pousser encore un peu plus loin. Et nous voulons réaliser que rien ne résistera à ce que Dieu a planifié d'ouvrir. Alors Seigneur, nous voulons rentrer dans ta plénitude ce matin. Nous voulons rentrer dans ta vie. Nous voulons rentrer dans ta puissance. Nous voulons saisir cette clé, nous en revêtir et réaliser qui nous sommes en Jésus. Seigneur, viens visiter ton Église. Viens visiter ton Église, Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Amen.